Gloire à Dieu. Ce que nous venons de chanter, c'est certainement souvent le secret pour pouvoir entendre la voix du Seigneur, c'est d'ouvrir notre cœur. Ça paraît basique, mais comment arriver à être vraiment attentif lorsque on est préoccupé par tant de choses, tant de projets qu'il y a sur notre vie, que des fois c'est difficile de faire une petite parenthèse, et pourtant c'est indispensable dans ces moments, si nous voulons vraiment recevoir la pensée du Seigneur. Moi, j'ai beaucoup de joie de partager la parole du Seigneur avec vous. Et comme j'ai pu le dire mardi, je le redis ce matin, ce que je voudrais, c'est que même s'il y a de l'enseignement dans ce que nous allons partager, c'est qu'on n'enrichisse pas notre cerveau ou notre intellectuel, et surtout que ça touche nos cœurs, que cela produise du fruit dans nos propres vies, afin que le nom du Seigneur soit toujours plus glorifié dans nos vies tant qu'il est jour. Que son nom soit béni. Jésus, au début de son ministère, dans le sermon sur la montagne, a défini les qualités normales du disciple. Et nous allons tout à l'heure lire un passage où le Seigneur Jésus nous enseigne clairement comment nous devons nous comporter les uns et les autres à l'égard de nos ennemis. Nous vivons en France des événements très dramatiques qui peuvent parfois nous inciter, peut-être pas en acte, mais en pensée, qui peuvent nous inciter à une forme de vengeance. Plus près de nous, peut-être, il y a des événements dans notre famille, dans notre milieu professionnel, encore plus un cadre restreint, c'est notre couple, notre foyer, où il peut y avoir des situations tellement violentes, des situations de haine si fortes, que parfois nous pouvons être amenés à avoir, si ce n'est pas un acte, en tout cas en pensée, un désir de se venger. Une logique de violence, logique bien sûr, sur le plan humain. Et je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur nous enseigne, comment nous devons nous comporter à l'égard de nos ennemis. On va lire ensemble dans Matthieu au chapitre 5, Évangile de Matthieu au chapitre 5, il y a des textes, on les lira ensemble, d'autres, si vous voulez, vous prendrez les notes. J'essaierai de ne pas oublier de vous donner la référence à chaque fois que je le cite. Il y a plusieurs textes, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de lire ce que la Bible nous enseigne. C'est ce qui est fondamental pour nous. Et là, c'est les paroles du Seigneur Jésus, notamment dans ce contexte, vous savez, chapitres 5, 6 et 7, dans ce contexte du sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez, dites-le. Voilà, on est bien d'accord, c'est écrit aussi dans votre Bible. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous dites amen?
Amen.
Alléluia. Au verset 38, Jésus fait référence à cette fameuse loi, la loi du talion, talis en latin, qui signifie tel, pareil, semblable. Alors disons-le de suite, Dieu n'incite pas à la vengeance. Mais lorsqu'il a énoncé ce principe aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est seulement parce que l'Éternel voulait éviter la surenchère, la spirale de la violence, l'escalade de la violence. Tu me voles mon scooter, je te brûle ta maison. Voilà, un acte disproportionné, ça vous paraît complètement absurde, mais je peux vous assurer que dans le cœur, la violence de la vengeance est parfois à ce niveau. Et Dieu a voulu qu'il n'y ait pas cette surenchère et cette escalade de la violence, c'est pour cela qu'il avait institué cette loi, en fait, pour une telle offense, eh bien, il y avait une telle proportion aussi de justice. Et c'est vrai que la soif de vengeance, c'est quelque chose qui peut aller loin, qui peut aller très loin. Et c'est certainement dommage que la tradition nous incite, à chaque fois que nous pensons à cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, implicitement la tradition nous a amené à penser que Dieu était d'accord avec une sorte de vengeance que nous pouvions faire. Ce n'était pas l'intention de Dieu, soyons clairs là-dessus, qui non seulement a voulu éviter l'escalade, la surenchère, mais qui veut très clairement opposer à l'escalade de la violence son amour. Opposer l'amour à la violence. Et c'est en cela que nous touchons à la perfection de Dieu. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous allons essayer de voir au travers de la vie de Jésus, mais aussi au travers de cet enseignement que nous avons lu ensemble, qu'est-ce que signifie, et c'est le titre de mon message ce matin, aimer ses ennemis. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aimer ses ennemis? Alors le premier point, je laisse sur votre cœur, aimer ses ennemis, j'espère ne pas trop vous surprendre, mais c'est dénoncer le mal. Il est dit au verset 39 du texte que nous avons lu, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Alors là, c'est important de clarifier aussi ce que la tradition humaine, et même parfois la tradition religieuse, malheureusement, nous a mal transmis. Aimer ses ennemis, ce n'est pas une faiblesse, où nous serions encouragés à nous comporter comme des lâches, voire même inciter l'autre à nous faire du mal. Parce que dans ce cas-là, nous serions aussi coupables que lui pour incitation à faire du mal. Et j'en profite pour une petite parenthèse, préciser que vous devez exercer pleinement dans votre vie la légitime défense. Attention aux mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Plusieurs fois, Jésus lui-même a fui devant ceux qui voulaient le faire mourir. Plusieurs fois. Et même le jour où il savait que c'était son heure, il n'est pas allé de lui-même frapper à la porte et dire « Voilà, c'est l'heure à vous, il a attendu. » On n'a pas allé au-devant du mal que autrui veut faire sur notre vie. Je ferme la parenthèse. Aimer son ennemi, c'est dénoncer le mal qu'il nous fait pour lui permettre une prise de conscience qui, dans le meilleur des cas, pourra lui être salutaire. D'ailleurs, voyons comment Jésus lui-même a réagi quand on l'a giflé. Lecture de Jean au chapitre 18, on le lit ensemble s'il vous plaît. Jean chapitre 18 verset Notre frère nous en a parlé dimanche dernier, toutes ces souffrances que le Seigneur Jésus a subies, elles ont été nombreuses, on est dans le contexte de l'arrestation de Jésus-Christ. Jean chapitre 18, verset 22, comment Jésus s'est comporté, lui qui vient de nous parler, de nous enseigner comment on devait se comporter, et pour peut-être clarifier cette mauvaise interprétation de tendre l'autre joue. Je voudrais qu'on lise ces versets, Jean 18, verset 22. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Tendre l'autre joue ne signifie pas qu'en réponse à un mal subi, nous disions « Même pas mal, tu peux me frapper encore si tu veux. » À la limite, ça serait de la provocation. Dieu veut que nous allions beaucoup plus loin que la loi du talion qu'il avait instituée dans l'Ancien Testament. Dieu veut que nous allions plus loin que d'éviter la spirale et l'escalade de la violence. Dieu veut que nous allions plus loin que d'éviter la surenchère. Il veut que nous renversions la vapeur. Il veut que nous partions dans le sens opposé à ce que nous subissons. Et c'est le sens véritable de tendre l'autre joue. Et il veut que nous désarmions notre adversaire par notre comportement, afin que surpris, ébranlés, choqués, bouleversés par notre attitude, une attitude de non-vengeance, une attitude d'amour, une attitude de pardon, afin que notre ennemi soit conduit sur la voie de la repentance, qu'il soit en fait honteux de sa faute pour son salut. Comment pourrions-nous dire à quelqu'un qui souffre d'injustice qu'il doit en plus tendre l'autre joue et accepter la situation sans défense. Soyons sérieux avec la parole de Dieu. Regardez comment même l'apôtre Paul, lorsqu'il a été jugé devant le Sanhédrin, s'est comporté. Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. Je vous rappelle que l'apôtre Paul nous a invités à être ses imitateurs comme il était de Christ. Actes chapitre 23, verset 2 et le verset 3. Lorsqu'il a été jugé devant le Sanhédrin, l'apôtre Paul s'est comporté ainsi. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » On s'arrête là. Tout au long de son ministère, le Seigneur Jésus a rencontré beaucoup d'ennemis. Cela nous a été longuement rappelé dimanche dernier. Parfois même au sein de sa propre famille, de ses proches, les plus proches, je pense à Judas. Mais presque systématiquement, Jésus, qui est artisan de la paix, a tout fait pour les aider à prendre conscience de leurs fautes. Comme dans le cas, vous vous souvenez certainement, de la femme adultère où ils sont venus pour l'accuser, où ils sont repartis les uns après les autres, repris chacun dans leur conscience. Autrefois, mes frères et sœurs, nous aussi, nous étions ennemis de Dieu. Heureusement. Heureusement que Dieu a tout fait pour nous convaincre de notre péché et de notre offense envers lui. Où serions-nous ? Aimer ses ennemis, c'est ne rien faire qui peut sembler les conforter dans leurs mauvais agissements et tout faire pour les aider à prendre conscience du mal qu'ils nous font. Ça, c'était le premier point. Aimer ses ennemis, c'est dénoncer le mal qu'ils nous font. La deuxième point que je voudrais partager avec vous, aimer ses ennemis, c'est s'en remettre à Dieu le juste juge, s'en remettre à Dieu, le juste juge. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 5, il était écrit ceci, je vous le relis, ne le cherchez pas. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Cela signifie que nous ne devons pas nous laisser envahir par la soif de vengeance, qui nous pousse parfois à vouloir faire justice nous-mêmes. Il y a un proverbe de l'Écriture qui dit ceci, « Ne dis pas « je lui ferai comme il m'a fait ». Je rendrai à chacun selon ses œuvres, ou dans la traduction Bible en français courant, ça nous parlera peut-être un peu plus, je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Connaissez l'expression. Proverbe 24, verset 29. Comment Jésus a-t-il agi face à ses ennemis? Il est écrit ceci, injurié, il ne ripostait pas à l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge dans 1 Pierre chapitre 2, verset 23, dans la version Semeur. Aimer ses ennemis, c'est s'en remettre à Dieu, le juste juge. Je précise quand même, c'est important, que Dieu n'est pas contre le fait que nous fassions appel à la justice des hommes. Paul a dit ceci, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien » dans Romains chapitre 13 et le verset 4. Nous avons des droits en tant que citoyens français et nous devons faire en sorte que ces droits soient respectés. C'est pourquoi Dieu a établi des magistrats et nous devons tout faire pour faire respecter ces droits, même parfois quand les magistrats eux-mêmes ne les respectent pas, mais c'est un autre sujet, on va lire ensemble dans Actes au chapitre 16. Là aussi, comment l'apôtre Paul s'est comporté, Actes chapitre 16 et au verset 35. Quand on voit certaines interprétations de la Bible, on se demande s'il n'y a pas certaines pages de la Bible qui ont été complètement oubliées ou enlevées. Il suffit de regarder quelques textes et on voit qu'avant toute chose, Dieu est un Dieu de bon sens. 1 Pierre, Actes 16, verset 35. « Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. » Mais Paul dit au licteur, « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. » Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent même nous remettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Avouez que dans nombre de situations, nous n'avons pas la capacité humaine, à cause de nos limitations tout simplement, de pouvoir véritablement juger bon nombre de situations. Que d'erreurs dans la vengeance. Il faut savoir s'en remettre à Dieu, qui lui connaît tout parfaitement. Il lit dans nos cœurs, nos pensées, il peut analyser parfaitement telle ou telle situation, et il regarde même comment nous agissons, comment nous nous comportons dans chacune de nos actions. C'est lui, et lui seul, qui rendra à chacun selon ses œuvres ici-bas. On lit un texte ensemble dans 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 8. 1 Pierre 3, verset 8. Je fais une petite parenthèse parce que la pensée est là sur mon cœur, mais je ne veux pas aller trop loin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pensais à, on parle souvent de la violence faite aux femmes, dans les foyers, dans les couples. Et il est regrettable parfois qu'on se soit même appuyé sur la parole de Dieu pour la légitimer. Avec, par exemple, ce verset qu'on a lu tout à l'heure, hein, « Je te frappe, tu me présentes l'autre jour », ou sur ce thème de la soumission parfois mal comprise. Et c'est important de vraiment sonder les Écritures, de laisser le Saint-Esprit nous guider, de savoir comment nous devons nous comporter les uns et les autres. Verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur, elle est contre ceux qui font mal. Amen. » De notre attitude peut dépendre aussi, nous le voyons dans le contexte de la prière, l'attitude de Dieu à notre égard. Dans l'Écriture, il est écrit ceci, « Ne dis pas, je me vengerai. Confie-toi en l'Éternel, il te délivrera. » Proverbe chapitre 20, verset 22. Parfois, Jésus a parlé, a essayé de dénoncer, en tout cas de faire prendre conscience à l'autre du mal qu'il était en train de faire. Et parfois, Jésus n'a rien dit. Le prophète Ésaïe dit ceci, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Ésaïe 53, verset 7. Parfois, Jésus n'a rien dit devant ses accusateurs. Pourquoi ? Parce qu'il s'en remettait pleinement à son Dieu. Il savait que Dieu lui rendrait justice. Aimer ses ennemis, c'est s'en remettre pleinement à Dieu, le juste. Jésus, savait que Dieu lui rendrait justice. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la croix du calvaire, il est écrit ceci, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira dans Luc 23, verset 46. Aimer ses ennemis, c'est ne pas chercher à se faire justice soi-même, mais s'en remettre à celui qui est parfaitement juste dans tous ses jugements. Amen. Ça, c'était la deuxième pensée. La troisième pensée, aimer ses ennemis, c'est vivre dans le pardon. Malgré toute la violence, malgré toute la haine qui s'est déchaînée contre le Seigneur Jésus-Christ, Jésus a trouvé la force de dire à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Mes frères et sœurs, rien que cette parole de Jésus à la croix, face à tous ses ennemis, face à l'horreur du péché, rien que cette parole devrait suffire pour que toute notre vie ici-bas sur la terre, nous pardonnions à ceux qui nous offensent. Selon d'ailleurs cette exhortation que le Seigneur Jésus nous a laissée, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14 et verset 15. Quand nous considérons véritablement le degré de pardon dont nous avons été l'objet de la part de Dieu, nous ne pouvons que pardonner les offenses dont nous pouvons être l'objet. Et combien je vous encourage à relire la parole du méchant serviteur. On ne va pas la lire ce matin, c'est trop long, mais notez-le si vous voulez dans Matthieu au chapitre 18. À un moment donné, le roi sera obligé de dire « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Rien que cette parole de Jésus à la croix du calvaire, le rappel incessant dans notre cœur, comme cela a été rappelé dimanche dernier, la croix, ce n'est pas un instant de notre vie. La croix, c'est chaque instant que nous la vivons. Le rappel incessant de ces paroles, « Père, pardonne-leur », doit nous inciter les uns et les autres à vivre constamment dans le pardon. Aimer ses ennemis, c'est être libre dans notre cœur vis-à-vis d'eux, ne pas entretenir de rancœur, mais avoir reçu la grâce de leur pardonner. J'ai encore un quatrième point à laisser sur votre cœur. Ça va ? Vous en avez eu assez ? C'est un sujet particulier et j'avoue que j'ai eu quelques difficultés à le préparer. Aimer ses ennemis sont des paroles, chaque fois qu'on les lit, qui nous interpellent. Mais c'est vrai que dans le vécu, et j'ai été surtout aussi interpellé par le contexte particulier que nous vivons en France, et comment une certaine, peut-être, vengeance envers certaines communautés peut se développer au milieu de nous, il est important que nous, en tant que chrétiens, selon l'enseignement de Jésus, nous savions comment nous devons nous positionner. C'est important et, comme je dis tout à l'heure, même à divers degrés, ça peut aussi se passer dans la famille, plus proche de nous. Le quatrième point que je laisse sur votre cœur, aimer ses ennemis, c'est triompher du mal par le bien. Triompher du mal par le bien. On va lire un texte encore ensemble, Romains chapitre 12. Je vous l'avais dit, on va lire. Eh bien, lisons. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 17. Il y a des versets que j'aurais pu lire déjà tout à l'heure. J'attendais qu'on arrive à ce point. Romains 12, verset 17, qui est en parallèle du premier texte que nous avons lu dans Matthieu 5. Romains 12, 17, pardon. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Je le relis. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Pardon. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Aimer ses ennemis, c'est triompher du mal par le bien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces versets, mais je ne veux pas trop m'éloigner de la pensée qui est là sur notre sujet. Juste peut-être relever au verset 19, il est dit « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère ». Il ne s'agit bien pas de notre colère, mais de la colère de Dieu. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut s'en remettre à Dieu qui juge justement. Vous avez le verset 21, il dit « Surmonte le mal par le bien ». Après avoir dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal ». Je vous ai lu tout à l'heure, on l'a lu ensemble dans le Matthieu 5, verset 49, « De ne pas résister aux méchants ». C'est le même contexte, de ne pas laisser notre cœur envahir par le mal pour ne pas même enclencher tout ce qui pourrait devenir une escalade de violence. Nous devons agir pour le bien, malgré le mal qui nous est fait. C'est facile ? Non. C'est biblique ? Oui. Nous devons être honnêtes devant le Seigneur. On a besoin de toute sa grâce pour le vivre. Mais en tout cas, l'exhortation est dans ce sens. Nous devons agir pour le bien, triompher du mal par le bien. Il y a un bien supérieur au mal. Et en disant cela, je ne veux pas minimiser toutes ces souffrances, et je lisais tout à l'heure, parce qu'en préparant ce message, j'y pensais beaucoup aussi, à toutes ces violences faites aux femmes, non seulement dans notre pays, mais à travers le monde. Toutes ces violences qu'on peut vivre dans le quotidien, je pense aussi dans le milieu professionnel, pensez au niveau hiérarchique, des fois il y a des choses extrêmement violentes. En disant qu'il y a un bien supérieur au mal, je ne veux pas minimiser la souffrance qu'il y a peut-être dans votre vie ou dans votre cœur. Mais il y a un bien qui est supérieur au mal. N'oublions pas que nous sommes appelés à être parfaits comme notre Père céleste est parfait, nous l'avons lu tout à l'heure. Et il a été parfait. Il est parfait. Il a été parfait, pourquoi ? Parce que lorsque nous étions ennemis de lui, il ne nous a pas traités selon nos offenses ou notre indignité, mais il a su triompher du mal par le bien, que son nom soit béni. C'est parce que Dieu n'a pas cherché à tirer vengeance sur nos vies que nous sommes là ce matin. Aurait-il pu le faire ? Oui. Pas un être humain n'aurait pu subsister devant sa face s'il avait demandé vengeance pour l'offense que nous lui avons faite. C'est parce que Dieu n'a pas cherché à tirer vengeance sur nos vies qu'il a pu accomplir cette œuvre merveilleuse, extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour le décrire. L'œuvre bénie de la croix du calvaire où nous avons l'exemple suprême du bien qui triomphe du mal. Surmonter le mal par le bien. L'apôtre Paul dit ceci, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. À l'apogée du mal, là, à la croix, où tous les péchés de l'humanité, les péchés de ma propre vie ont été exposés à l'humanité entière, à l'apogée du mal, Dieu a donné l'apogée du bien. C'est pour cela que nous disons souvent que cette croix, c'est vrai qu'elle est maudite, mais c'est une croix bénie. Là où le péché s'est exprimé dans toute son horreur, la plénitude de Dieu, la grâce divine a agi pour chacune de nos vies. L'apôtre Paul, un des pires ennemis de la foi chrétienne, alors ce n'est pas mon jugement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit lui-même. Et notre frère Jonathan l'a rappelé en introduction à notre culte. Il se décrit comme le premier des pécheurs. Il a été persécuteur de l'Église, l'apôtre Paul. Et voici ce qu'il déclare. « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses » dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Il a été lui aussi touché par la grâce de Dieu. Aimer ses ennemis, c'est continuer à agir pour le bien malgré le mal que nous avons reçu. Voilà les 4 points que je voulais laisser sur votre cœur. Et on va conclure par un texte, c'est un petit peu long. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a eu ce témoignage de la part de Dieu qu'il était un homme selon son cœur, sauf dans l'affaire d'Uri le Hétien. Mais la Bible rend ce témoignage, je l'ai noté tout à l'heure, ne bougez pas, je ne voudrais pas déformer. J'avais ce verset à cœur. « Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien, pardon. » 1 Roi 15, verset 5. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et même déjà dans l'Ancienne Alliance, nous verrons que par ses agissements, ses comportements, nous pouvons comprendre non seulement la loi que Dieu nous a laissée, mais c'est l'esprit de la loi. C'est ça qui est fondamental. C'est là que les scribes et les pharisiens ont souvent sont trompés, ils sont tombés, parce que derrière cette fameuse loi du talion, il y avait un principe surtout beaucoup supérieur et dans lequel le Seigneur Jésus nous engage ce matin, c'est surtout que, bien sûr, c'est excellent si on ne rentre pas dans la spirale de la violence, mais ce qui est meilleur, c'est de renverser la vapeur. C'est que, pour le mal, nous puissions agir dans la grâce, dans l'amour et dans le pardon. On va lire ce texte dans le premier livre de Samuel, ça sera notre conclusion ce matin. 1 Samuel. Regardez comment David s'est comporté. Son attitude reprend quelques points que nous avons partagés simplement ce matin. Vous savez que David aussi a eu beaucoup d'ennemis, même dans son propre camp, sa propre famille, beaucoup d'ennemis lui aussi. 1 Samuel, chapitre 24, on va lire tout le chapitre. Saül a plusieurs fois voulu attenter à la vie de David, plusieurs fois, de nombreuses fois. 1 Samuel 24, de là, David monta vers les lieux forts d'Enguedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici David est dans le désert d'Enguedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. » On a de bons conseils, vous savez, parfois autour de nous. Hein. « Traite-le comme bon te semblera. » En plus, c'est des gens inspirés, vous voyez, c'est part de la part de Dieu. Hein. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Au roi mon Seigneur, Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. J'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans mon conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi, il regardera, il défendra ma cause et il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Verset 17. « Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül lui dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Dommage, mais ce n'est pas de notre responsabilité que notre ennemi, malgré tout le bien qu'on peut lui manifester, ne change pas dans son cœur. Et Saül avait une très très belle opportunité de changer. Mais il a choisi après de continuer dans le mal. Il y a quelques points, regardez au verset 12. David dit ceci, au verset 12. « Toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. » Et ça, c'est ce rappel du premier point que nous avons partagé. Il est important de dénoncer le mal. Souvenez-vous de cela. David le pointe en tout cas à l'égard de Saül. Au verset 13, et nous l'avons lu à plusieurs égards, mais il est dit ceci, « L'Éternel sera juge entre toi et moi. » Aimer ses ennemis, c'est s'en remettre à Dieu, le juste juge. Le domaine de la vengeance, ça lui appartient qu'à lui. On est d'accord? David, en tout cas, était selon cette disposition. On peut lire au verset 12 aussi, comme tout à l'heure, « Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. Et ça, c'est le troisième point que nous avons partagé tout à l'heure. Un cœur libre, vivre constamment dans le pardon. Et les paroles de Saül au verset 18, David, il est obligé de constater, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. » Ça, c'était notre quatrième point. « Triompher du mal par le bien. » Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à méditer, à penser, à réfléchir sur ces choses, mais surtout qu'il puisse nous aider jour après jour à nous comporter selon son cœur. Vous le voulez ? Le sujet, je sais, est particulier. C'est la première fois que je prêche sur ce sujet. Je crois que c'est important pour nous de réaliser qu'il faut vivre toute la parole de Dieu et cet enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne est tellement important que nous devons prendre au sérieux ces paroles. Je voudrais juste qu'on se lève ensemble, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on puisse prier un instant le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir une fois de plus pour ta parole. Merci parce que tu n'as pas essayé de cacher ou dissimuler nos fautes. Mais par ta parole, tu nous as dit exactement. Tu as dénoncé le mal à l'endroit pile où il était dans notre cœur. Et nous te bénissons pour cela. Cela a été notre salut. Que tu nous montres quelle était l'offense que nous avions faite à ton égard. Nous voulons te bénir ensemble pour la grâce qui coule encore de la croix du calvaire. Et je voudrais te prier particulièrement ce matin pour chacune de nos vies. Tu vois toutes les situations où, parfois c'est vrai, même si ce n'est pas un acte, une pensée de vengeance peut venir sur notre cœur. Nous te prions, Éternel, de la croix du calvaire de nous couvrir, de nous environner de ta grâce, pour que dans ces instants précis où la violence voudrait prendre le dessus dans notre cœur, nous puissions vivre le pardon comme tu l'as toi-même vécu à la croix. Nous voulons pardonner. Nous voulons marcher à ta suite, Éternel. Aide-nous pour cela. Nous ne pouvons pas le faire tout seul. Et je te prie peut-être particulièrement pour ceux qui, ce matin, au milieu de nous, vivent des moments ou des actes de violence dans leur vie, de quelque niveau que ce soit. Nous te prions ensemble de la bénir. Personne ne peut juger la situation. Nous nous en remettons à Dieu, qui est le juste juge, qui connaît tout parfaitement. Mais bénis cette personne, Seigneur. Et qu'ensemble, nous puissions marcher à ta suite. Tu nous l'as dit encore et rappelé ce matin. Nous voulons être parfaits, Éternel, comme toi tu es parfait. Amen.